Divergence FM, l'interview.
Tout le monde ne parle plus que de la méthode et des écoles Montessori, les nababs de la Silicon Valley qui mettent leurs enfants, mais aussi le nouveau ministre de l'Éducation nationale français qui chante ses louanges. En France, la mode Montessori vire même au phénomène de société. Après le succès en librairie, avec le livre « Les lois naturelles de l'enfant » et des préconisations de son auteur, Céline Alvarez. À Divergence FM, on donne un coup de projecteur sur cette méthode alternative avec Printemps Nguyen. Elle est professeure des écoles dans une école publique. Elle propose une pédagogie d'inspiration Montessori. Et puis Loïs René, qui est professeur des écoles, lui aussi, et qui est délégué départemental de l'association publique Montessori. Bonjour à vous deux.
Bonjour.
Bonjour.
Mais juste avant, on va commencer par ce petit son qui va rappeler une actualité assez récente.
Infirmières, enseignants, administratifs, ils se sont déplacés en nombre aujourd'hui pour crier leur colère.
Alors c'est qui les feignants ?
Alors que le gouvernement prévoit de geler de nouveau leur salaire, beaucoup s'inquiètent pour leur pouvoir d'achat et vivent cette mesure comme une injustice.
Une aide-soignante qui débute sa carrière, elle est à 1300 euros. Vous trouvez ça normal ? Avec les horaires atypiques, les contraintes, enfin, les conditions de travail qu'on nous offre aujourd'hui, vous trouvez ça normal ? Et on est des nantis, on est des feignants, des extrêmes, des cyniques. Qui c'est qui travaille aujourd'hui ?
Je touche à 1700 euros. Ça fait pratiquement maintenant 30 ans que j'y suis. Voilà, donc voilà, la galère.
Pour d'autres, ce n'est pas qu'une question de salaire, mais aussi un problème de reconnaissance.
On a l'impression que ça participe d'une certaine vision un peu ringarde de la fonction publique qui ne participe pas vraiment à la richesse nationale. Or, on produit quotidiennement de la richesse nationale quand on produit de la réussite scolaire, par exemple. Et on a l'impression vraiment d'une non-reconnaissance de ce genre de choses.
Extrait du journal télévisé du 10 octobre 2017 lors de la manifestation des fonctionnaires mobilisés pour leur pouvoir d'achat, entre autres. On vient d'entendre cet enseignant qui dit produire de la réussite scolaire, c'est produire aussi de la richesse nationale. Est-ce qu'avec la pédagogie alternative Montessori que vous proposez, c'est une sorte de richesse nationale que vous produisez?
C'est une bonne question.
On commence fort.
Oui, c'est une très bonne question. Produire, notre travail essentiellement, c'est de permettre à des enfants, des jeunes enfants et des enfants un peu plus âgés plus tard, de réussir leur vie, d'être citoyens dans le monde dans lequel on vit. Et que ce soit en pédagogie Montessori ou en pédagogie coopérative freinée, je crois qu'on vise à non seulement leur permettre d'acquérir toutes les compétences scolaires et les savoirs liés au comportement, au savoir-vivre, au savoir-être, et en même temps être capable de réfléchir, de confronter leurs opinions entre eux, de construire leur capacité à raisonner, à se positionner dans un monde qui est complexe, de plus en plus complexe aujourd'hui. C'est en ça, il me semble, qu'on leur permet de réussir leur vie et de produire de la richesse au niveau national. Enfin, après.
Alors cette confrontation des idées que vous avez aussi dans l'association que Loïs René propose, on va en reparler. Est-ce que cette confrontation, ça permet aux enseignants qui vivent un malaise, par exemple, dans leur profession, de voir un peu plus loin et de sentir mieux dans leur profession?
Oui, effectivement, on fait partie d'un groupe qui s'appelle Public Montessori, et donc qui réunit des enseignants, des ATSEM, des parents ou des personnels proches de l'éducation qui sont intéressés par œuvrer dans le public, essentiellement dans le public et en pédagogie Montessori. Et le fait de se réunir ensemble, de confronter nos opinions, d'échanger, de partager de la formation, de se co-former aussi, d'échanger des savoirs et des pratiques professionnelles, ça nous permet d'être plus forts et ne pas se sentir isolés. C'est difficile de changer de pédagogie, d'exercer dans une pédagogie alternative, quelle qu'elle soit, sans être en équipe, sans travailler avec d'autres. Alors, seul, c'est voué à l'échec.
Concrètement, c'est vrai que pour nos auditeurs, Maria Montessori, c'est pas une personne forcément connue. Donc, pour reprendre son historique, ça a été la première médecin femme en Italie. Et elle a travaillé avec des enfants arriérés, dits arriérés qui avaient des besoins éducatifs particuliers et un besoin véritablement d'être stimulés. Est-ce que c'est le cœur finalement de cette pédagogie Montessori, de stimuler les enfants ?
Ça en fait partie en tous les cas, et c'est grâce aussi à un matériel très intéressant et qu'elle a développé scientifiquement, qui est très attrayant pour les enfants, que les enfants justement ont cette stimulation, cette envie, cette attraction, cette attirance pour du matériel qui va leur permettre d'accéder de manière sensorielle dans un premier temps à des concepts qui sont plus complexes, comme la géométrie, la numération, décimale.
Alors concrètement, Il ressemble à quoi ces outils ?
Alors, il y a beaucoup de matériel.
Parce que pour rappeler à nos auditeurs, vous êtes professeur des écoles et vous avez fait appel à une plateforme de financement participatif, Ulule, je crois.
Tout à fait, on peut la nommer. Avec deux de mes collègues.
Avec d'autres collègues de votre école pour financer l'acquisition de matériel pédagogique qui coûte assez cher.
Tout à fait, oui. On a dû effectivement passer par ce biais-là, demander l'aide aussi de parents d'élèves, ils nous ont organisé une tombola, on a demandé un financement participatif. Ça nous a permis d'acheter, de commencer à acquérir un certain nombre de matériels pédagogiques, spécifiquement Montessori. Donc il y a beaucoup de matériel mathématique, de matériel sensoriel qui est développé par Maria Montessori, qui nous aide au quotidien, à travailler de manière très, comment dire, sensorielle, physique. Les enfants ont besoin d'avoir quelque chose dans les mains, de voir, de toucher, de construire pour pouvoir appréhender des concepts plus compliqués, plus abstraits.
Dans votre classe, Loïs René, je sais que vous êtes attentif à tout ce qui est activité sensorielle. Oui. Ça ressemble à quoi concrètement ?
Avant même de connaître Maria Montessori, j'avais la certitude que les enfants jeunes avaient besoin de développer toutes leurs compétences sensorielles. Donc je mettais en place des choses beaucoup plus contemporaines, des choses que l'on maîtrise, qu'on nous apprend dans les SP, les établissements de formation de professeurs des écoles. Aujourd'hui, grâce au matériel Montessori, je me suis rendu compte que je pouvais aller plus loin dans l'apprentissage sensoriel. Le matériel est vraiment gradué. On va apprendre à l'enfant à sensoriellement percevoir des concepts très précis.
On parlait de numération, par exemple. Comment on peut, de manière sensorielle, acquérir la
Alors, numération? On a les premiers matériels que l'on peut trouver aujourd'hui dans tous les bons commerces, parce que ça se vend aujourd'hui partout, avec cet effet de mode. On a, par exemple, une tour rose. Ce sont des cubes. Avec lesquels on va percevoir la sensation de volume d'un cube qui va faire 10 cm cubes pour la base de cette tour jusqu'au tout petit tout en haut qui va faire 1 cm cube. Et donc de manière sensorielle, l'enfant va faire un gradient du cube le plus gros de 10 cm cube, puis celui de 9 cm cube jusqu'à celui d'1 cm cube. Il va vraiment faire ça de manière naturelle parce qu'un enfant est en capacité, au vu de ses acquisitions, tout doucement de pouvoir refaire cette tour de cube du plus gros au plus petit. Et nous, on ne va pas lui apprendre du plus gros au plus petit, mais du plus large au plus étroit, de celui qui a la plus grande largeur à celui qui a la plus petite largeur. Et on va utiliser tout ce vocabulaire-là pour tout doucement lui donner, en plus du langage, ce qui est un des points fondamental de nos programmes en maternelle. Et tout doucement, avec ce matériel-là, il va pouvoir aussi le faire les yeux fermés. Donc c'est une énième étape de tout un processus qui va pouvoir prendre plusieurs jours, voire plusieurs semaines avec cet enfant-là. Mais à la fin, il aura appris énormément de choses. C'est qu'il aura élaboré des schémas mentaux. Et le jour où il va apprendre que le volume d'un cube, c'est sa largeur fois sa longueur fois sa hauteur, eh bien, il aura déjà eu dans ses mains une première fois dans sa vie. Il aura pu le développer de manière mentale et de manière sensorielle. Ça sera sans doute beaucoup plus facile pour lui d'établir des liens entre quelque chose qu'il a manipulé un jour dans sa vie avec un concept mathématique beaucoup plus compliqué.
Ce que nous propose de faire aux enfants, Loïs René, dans votre classe Printemps en Guyenne, l'enseignant, alors, il ne sert plus à rien.
Ce que nous propose Loïs, en fait, on ne l'a peut-être pas bien perçu, c'est qu'avant que l'enfant le fasse, le maître lui montre, calmement, avec délicatesse, et l'enfant va reproduire les gestes de manière un peu mimétique au départ, mais petit à petit, il va s'appréhender le matériel et plus tard les concepts. Il a aussi une autre possibilité, avec le temps et l'expérience, c'est qu'il va il ne va pas faire tout le temps la même chose. Il va varier ses constructions, comprendre d'autres concepts. Un petit cube de tel volume ne pourra pas soutenir un gros cube par-dessus. Voilà, ça, c'est des constructions qui vont se faire par la manipulation, mais qui vont permettre à l'enfant de comprendre des choses, tout naturellement. Mais au départ, c'est le maître qui montre.
On écoute Céline Alvarez, qui a justement publié un livre récemment, en tout cas il y a quelques années, sur cette pédagogie.
Il faut que les enfants puissent être actifs. L'être humain n'apprend pas quand il est passif. Il n'apprend pas quand il est passif, il apprend quand il est actif et il apprend quand il fait des choses qu'il aime. Il ne peut pas apprendre quelque chose qui ne l'intéresse pas. Parce qu'on sait aujourd'hui, par exemple, que les zones de la mémoire s'activent très très faiblement lorsque nous ne sommes pas motivés ou curieux, intéressés par le sujet qu'on essaie d'apprendre.
Céline Alvarez qui donc a publié un livre intitulé « Les lois naturelles de l'enfant » dans lequel elle relate ses travaux dans une classe à Gennevilliers. Louis, René, elle dit « Il faut que l'enfant fasse des choses qu'il aime absolument ». Alors existe la grammaire, la conjugaison, tout ce qui est un petit peu rébarbatif.
Et ça existe aussi en pédagogie Montessori, la grammaire. Et oui. Mais ça s'apprend aussi de manière très sensorielle. La grammaire, c'est avant tout comprendre ce qu'il y a à l'intérieur d'une phrase, c'est voir qu'il y a un verbe qui découle d'une action ou d'un état. Et donc, chez Maria Montessori, on va utiliser une sphère qui bouge, qui roule, et tout de suite, on a une action qui se produit. Alors que le nom qui va venir soutenir ce verbe-là, c'est une pyramide, c'est costaud dans la phrase, c'est le sujet, donc ça va être une pyramide noire qui est stable. Et tout de suite, en utilisant des matériels sensoriels, du matériel qui a une certaine délicatesse, quelque chose d'assez joli en plus, on va tout de suite beaucoup plus facilement cerner qu'est-ce qui constitue une phrase et comment est-ce qu'on peut jouer avec tout ça pour fabriquer des textes. Et ça devient tout de suite quelque chose de productif. Il y a des enfants qui arrivent à s'accaparer ce matériel-là dès la grande section de maternelle. Voilà, c'est ce qu'il faut se dire. Alors que dans une école un peu plus classique et dans des fonctionnements beaucoup plus classiques, ça n'apparaît qu'à la fin de la CE1, CE2, voilà, dans les programmes. Donc voilà.
Donc par des situations imagées, concrètes, l'enfant accède à des de l'abstraction finalement.
Voilà, c'est pas des situations imagées. On va d'abord partir de quelque chose d'assez abstrait, effectivement, et passer à une étape où on va concrétiser quelque chose. On va reposer des schémas. Il y a toujours ce penchant-là. On va partir de cette tour rose pour faire parler de volume. Et puis un jour, on va parler de volume. Et on va repartir de la tour rose et on va refaire découler tous ces apprentissages-là. C'est vraiment marche après marche. Et si on suit cette progression-là, marche après marche, on obtient les résultats.
Donc on sait où inscrire vos enfants si vous souhaitez une pédagogie différenciée. En tout cas, vous êtes enseignant dans une école maternelle à Celle-Neuve. Merci à Printemps Nguyen. Et à Louise René.
Merci.
Merci.